Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, j'espère qu'il se fait en douceur. Marianne Paquette au micro, qui vous accompagne au cours des 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé que vous écoutez sur Canal M en ce deuxième jour du mois de mai, mais qui est le mois de la parole et de l'audition. C'est important de le souligner parce que on n'y pense pas souvent, mais ça nous permet de faire bien des choses quand et notre audition et notre capacité de parler, ben, ça se passe bien, on n'a pas de problème. C'est précieux pouvoir communiquer et également d'être entendu, de comprendre ce qui nous entoure. Eh bien, c'est des capacités qui sont essentielles dans notre quotidien, que l'on prend, comme je le disais, un petit peu parfois comme acquise. On estime qu'une personne sur six souffre d'un trouble de la parole, du langage ou de l'audition. Évidemment, avec le vieillissement de la population, bien, ce sont des chiffres qui auront tendance à augmenter et les besoins en ce sens sont croissants. On parlera des défis que ça engendre en deuxième partie d'émission avec Agathe Tupula. Elle est orthophoniste et directrice générale de la clinique ProAction. Aussi, vous dites qu'au cours des derniers jours, je me suis amusée à faire un petit sondage maison, c'est-à-dire à demander à des gens autour de moi, des collègues, des amis, des gens qui je savais seraient à l'aise de me répondre honnêtement, une grande question à savoir s'ils sont satisfaits de leur apparence, de leur enveloppe corporelle, de leur image, quoi. Et j'ai été très surprise de me faire répondre plus souvent qu'autrement par la négative. Surprise parce que je soupçonnais pas de la part de gens que je connaissais bien, qui me semblaient accomplis, très confiants, des gens lumineux. Je soupçonnais pas une insatisfaction par rapport à ça, mais également parce que notre société encourage de plus en plus des initiatives qui valorisent la diversité corporelle. Mais si on analyse les chiffres, et des chiffres assez récents, il y a un large pourcentage de Québécois, que ce soit des hommes, des jeunes, des femmes, qui sont insatisfaits de leur image corporelle. La grande question aujourd'hui, comment on peut entretenir une relation saine avec son corps? J'en parle avec Dr Stéphanie Léonard, elle est psychologue et également auteure du livre « Miroir, miroir, vivre avec son corps ». Stéphanie Léonard, bonjour. Bonjour Stéphanie. Docteur Léonard, bonjour. On a perdu la communication avec Docteur Stéphanie Léonard. Alors, on va remettre Jean-Sébastien derrière son téléphone et puis on vous revient dans quelques instants. Il tente à l'instant de la recontacter. Probablement qu'on a perdu le lien, le contact avec elle. Parce qu'on veut parler de cette publication en miroir, miroir, vivre avec son corps. Elle l'a fait, elle, cette recherche de discuter avec 30 personnalités connues du grand public. Elle est allée chercher ces témoignages, à savoir est-ce que ces gens étaient satisfaits de leur apparence, étaient satisfaits de ce qu'ils dégageaient. Et bon, on sait quand on est en plus, on fait un métier public, mais ça peut prendre encore plus d'importance. Donc, on vous revient dans quelques instants. Jean-Sébastien travaille fort derrière sa console. Docteur Léonard, bonjour.
Oui, bonjour.
On a eu chaud de vous avoir perdu ainsi.
Ben oui, je disais allô et personne ne m'entendait. C'était un petit peu paniquant pour moi aussi.
Je le disais, docteur Léonard, ce sondage-là que j'ai fait, c'est aussi un petit peu la démarche que vous avez effectuée à travers Miroir, Miroir, vivre avec son corps, parce que vous avez parlé à 30 personnalités bien connues du grand public et vous avez posé cette question, à savoir quelle relation ils entretenaient avec leur corps. Et suite à la publication de l'ouvrage, qu'est-ce qui reste? C'est quoi le constat de ces témoignages, de ces discussions?
En fait, moi, je suis partie de la prémisse. Je me disais, bon, vous l'avez dit, mais les statistiques, en fait, sont que c'est en fait 90 % des femmes et 70 % des hommes qui sont insatisfaits de leur apparence. Alors ça, déjà, je trouvais ça troublant. Combiné au fait qu'on n'a jamais eu autant de moyens pour supposément se sentir plus beau et plus belle, je veux dire, du régime amaigrissant au plan d'exercice, à tout ce qui peut exister. Alors, je trouvais ça particulier qu'on a beaucoup de moyens, mais qu'en même temps, on se sente si mal. Et j'étais, l'idée est partie de dire ces personnes connues qu'on a tendance à idéaliser physiquement, parce que la majorité du temps, lorsqu'on les voit, elles sont magnifiées, elles sont à leur meilleur. Alors, je me questionnais à savoir qu'est-ce que c'était leur rapport. Et puis, finalement, après cette aventure des trans entrevues, qui a été très fascinante en passant, j'ai réalisé que c'était une quête pour tout le monde. Mm-hmm. C'est sûr que pour certaines personnes, ça a été plus houleux et ça a été plus difficile. Il y en a même qui ont partagé le fait qu'ils ont eu un trouble alimentaire, par exemple, ou tout ça. Mais il n'y a pas une personne qui est née en se disant « je suis bien avec moi-même ». On dirait que pour chaque personne, ça a été un travail sur soi, des prises de conscience, des deuils et tout ça. Alors, je me rendais compte que personne connue ou pas, on vit à peu près tous la même chose en ce qui concerne notre rapport au corps.
Et j'ai l'impression que cette rencontre avec vous a permis pour certains de souligner des choses qu'ils n'avaient peut-être pas identifiées dans leur comportement, que ce soit alimentaire ou en rapport avec leur corps, et de dire j'ai peut-être une contradiction ou quelque chose qui roule pas, qui tourne pas rond complètement là.
Oui, puis peut-être parce que je suis pas à la base journaliste, mais bien psychologue. Je sais pas si ça a favorisé les confidences. Les gens, toutes les personnes qui ont participé au livre ont été extrêmement généreuses. Je leur disais toujours, ça va prendre à peu près une heure, toutes ces questions-là, puis on se ramassait à discuter, là, des fois deux heures, trois heures de temps. Alors oui, c'est vrai, j'avais l'impression aussi que j'ai pas eu de difficulté à recruter toutes ces personnes-là. J'avais l'impression que ça allait être difficile. J'ai vraiment réalisé à quel point c'était un sujet qui touchait tout le monde et comment les gens avaient besoin d'en parler. Puis oui, faisaient des prises de conscience et des constats en parlant d'une chose, de fil en aiguille, de réaliser des choses. Ça, c'était intéressant aussi, ce côté-là. Ça a été une entrevue que j'ai menée avec chaque personne, mais c'était aussi une belle discussion.
Oui. On le disait tout à l'heure, Stéphanie, je le disais également dans mon introduction, de plus en plus, la société met de l'avant différents modèles. On parle de diversité corporelle. Vous avez aussi mentionné le fait que de plus en plus, on a des régimes, plein de façons d'être mieux et on ne l'est pas. Les chiffres parlent en ce sens. Et je me dis, et en plus, vous êtes psychologue, donc c'est vraiment à ce côté de votre personnalité ou en fait de vos connaissances que je veux m'adresser parce que je me dis, au fond, c'est pas la société qui va changer les choses. Ça part vraiment de nous et de ce qui se passe entre nos deux oreilles, finalement.
Oui, sauf que c'est certain que, bon, je veux dire, depuis toujours, il y a des critères de beauté qui font référence à un certain modèle qu'on va vouloir, auquel on va voir ressembler. Avant, ça touchait uniquement les femmes, là, maintenant les hommes sont touchés aussi, mais ce qui se passe depuis quelques décennies, c'est qu'on est aux prises avec un modèle de beauté qui est vraiment irréaliste. C'est-à-dire que le côté filiforme, très mince, symétrique, en même temps, on veut des formes, mais on veut des formes à certains endroits, comme des seins et des fesses, mais on veut pas de rondeur ailleurs. Tu sais, c'est un corps qui est un peu absurde, c'est-à-dire qu'il est très, très loin de la normalité et de la diversité corporelle. Ça, je pense que ça a définitivement amplifié notre difficulté. Puis oui, c'est entre nos deux oreilles, mais en même temps, l'industrie de l'amaigrissement, entre autres, qui génère 60 milliards de dollars par année en Amérique du Nord, donc c'est une industrie qui a un grand pouvoir médiatique aussi, nous bombarde de l'idée, avec l'idée qu'on a juste à faire la bonne chose et on va l'atteindre, ce fameux corps. Alors, c'est vu comme quelque chose qui est très, très atteignable, ce qui est faux. Mm-hmm. Et puis aussi, on n'a pas juste associé, c'est pas juste esthétique, là, on se rend compte qu'on a associé beauté, minceur à réussite, bonheur, relations interpersonnelles qui nous comblent. Ça va au-delà du côté esthétique. C'est comme si on a vraiment l'impression qu'une personne qui est très proche du stéréotype de beauté qu'on nous propose est en fait une personne qui est plus heureuse et qui fonctionne mieux dans la société, ce qui est tout à fait faux. Alors, on n'achète pas seulement l'idée du concept concept esthétique, on veut l'idée complète. Là, on a l'impression que c'est comme ce qu'il faut obtenir sur bien des plans autres que juste physique. Alors ça joue des tours. Et c'est certain que plus une personne va avoir une estime de soi fragile, plus une personne va porter en elle certaines vulnérabilités, plus ce message de la société va être difficile à bloquer. On n'est pas tous égales face à cette pression-là.
Mais concrètement, comment on peut déjouer que ce soit la publicité qui nous incite à adopter un régime ou une diète ou encore ce qui nous amène à voir qu'un modèle de beauté? Est-ce que c'est possible concrètement de changer cette façon de voir les choses?
Oui, mais il faut y aller beaucoup en éducation, en prévention. Mm-hmm. Je dis ça, je donne souvent comme exemple juste les figurines pour enfants. Moi, je suis née dans les années début 70, donc il y avait déjà Batman, Superman. Ça, si on prend les petites figurines et on regarde celles qui existent maintenant, le corps est complètement différent. Dans le temps, Superman, il était mince, il était grand, mais maintenant, il est musclé, là, le torse en V, la petite taille, une musculature qui est impossible à obtenir. Et les filles aussi, c'est des poupées. Donc, très, très tôt, il y a un conditionnement qui se fait malgré nous de vouloir, en fait, ressembler à un certain modèle. Et les enfants, on le voit dès l'âge de 5 ans, on leur présente des photos de différentes personnes. Et plus une personne ressemble au stéréotype, plus ils vont dire « elle doit être gentille, cette personne-là, je vais lui faire confiance ». Il y a déjà un préjugé qui s'installe. Donc, on a beaucoup de prévention à faire, je pense, très, très tôt auprès des parents, auprès des écoles. Et quand on est rendu adulte, je pense que c'est de s'éduquer. Donc, de réaliser, en fait, que le modèle qu'on nous propose, il est irréaliste, que la diversité corporelle, c'est la réalité. La réalité, c'est que nous sommes tous faits pour avoir un corps différent et qu'on n'a pas tant d'emprise là-dessus parce qu'en fait, on a une grande prédisposition génétique qui va déterminer ce dont on va avoir l'air. Bon, c'est pas un poids fixe, là, c'est pas un chiffre fixe, mais notre silhouette ou notre poids. Et vous en parliez aussi au niveau de l'industrie de l'amaigrissement. Je veux dire, les statistiques sont assez éloquentes. C'est 95% des gens qui font un régime amaigrissant, tout régime confondu, qui reprennent le poids et plus dans les 5 ans qui suivent. Donc, on peut se dire que pour que la majorité des gens, ça fonctionne pas vraiment, c'est toujours à refaire. Alors, faut éduquer les gens, leur expliquer en fait que c'est pas accessible pour tout le monde, ce corps-là mince, et qu'il faut pas de toute façon vouloir ça, parce que c'est pas vrai qu'on va être plus heureux et qu'on va être nécessairement mieux dans notre peau. Et ça, je le vois tous les jours dans mon cabinet. Là, c'est pas parce qu'une personne est nécessairement plus mince que sa vie est plus belle.
Ouais.
Alors ça, on a beaucoup, mais c'est beaucoup à travers l'éducation, en parler, comme ce que vous faites aujourd'hui, faire de la place. Il y a quelques années, on en parlait à peine de tout ça. Et là, maintenant, de plus en plus, il y a des tribunes, il y a des gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Donc, c'est tous ces petits gestes-là, à mes yeux, sont un pas en avant pour essayer de libérer les gens.
Ce qu'il y a également de troublant et qui me semble nouveau, c'est cette préoccupation qui vient des hommes aussi. On le disait tantôt, 70 % d'entre eux sont insatisfaits. Ça, c'est assez nouveau. Comment on peut se l'expliquer? Bon, on parlait de Batman, Superman tantôt. Est-ce que c'est une partie de la réponse?
Oui, c'est-à-dire que jusqu'à il y a à peu près 30-40 ans, les hommes étaient très peu touchés par la pression, en fait, de ressembler à un stéréotype de beauté masculin. C'est certain que là, il y a effectivement, dans les années 70, le corps très musclé qui est apparu et qui est devenu un peu notre point de repère, qui fait que là, les hommes aussi se sont retrouvés aux prises avec un modèle de beauté qui était assez inaccessible. Et une autre théorie qui est un petit peu plus d'ordre sociologique, je dirais, c'est que jusqu'à il y a justement 30-40 ans, les femmes n'étaient pas tant présentes sur le marché du travail. Socio-économiquement parlant, l'homme avait cette dominance-là, si on peut dire, ça a été perdu. Alors, l'homme a eu un peu à se redéfinir et c'est là où le corps est redevenu important, d'avoir un corps qui est fort, qui est musclé, donc ça aussi, on pense que ça a pu influencer, mais c'est certain que les hommes maintenant, si on regarde juste toute l'industrie de la beauté, pour les hommes aussi, il y a des magazines, des crèmes, des interventions chirurgicales, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont destinées uniquement aux hommes. Ce qu'on n'avait pas avant, les hommes, ils pouvaient avoir l'air à peu près n'importe quoi. Là, je le dis toujours en riant, mais c'est vrai pareil. Et maintenant, c'est pas ça du tout. On est rendu exigeant aussi. Alors ça, je pense que ça a beaucoup influencé le fait que maintenant, les hommes se sentent un peu comme les femmes peuvent se sentir face à notre propre modèle de beauté.
Mm-hmm. Stéphanie, ce qui revient assez souvent dans Miroir, vivre avec son corps, peut-être parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont été rencontrés dans cet exercice, c'est de laisser aux jeunes filles, aux aux adolescents des messages positifs,
oui.
des modèles aussi qui sont réalistes. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce sens-là, même si on n'est pas une personnalité connue, mais en tant que parent et adulte signifiant?
La première étape, c'est d'être nous-mêmes, d'entretenir nous-mêmes un rapport positif avec avec notre propre image corporelle. Ça a l'air drôle à dire, mais on peut dire ce qu'on voudra, ça va être ce qu'on va faire, ça va être nos comportements en fait qui vont avoir beaucoup plus d'impact. Alors, on peut essayer de véhiculer un message positif à notre enfant, mais si nous-mêmes on est dans l'autocritique ou dans le dénigrement, ou nous-mêmes au régime, c'est comme si là il y a une incongruence qui fait qu'on n'est pas très constructif. Je pense qu'il y a ça, il y a le fait de toute cette éducation aussi d'essayer que nos adolescents, parce que l'adolescence, c'est la période la plus fragile, due à tous les changements corporels, à la puberté, tout ça. Donc, au niveau physique, là, c'est vraiment éprouvant être adolescent. Alors, en plus, dans notre société, c'est difficile. Donc, toute cette éducation de dire, écoute, peut-être tu ressentiras cette pression d'être mince, tout ça, mais de faire de l'éducation par rapport à la diversité corporelle. Je parle beaucoup du fonds d'estime de soi Dove, qui a des feuillets d'activités qu'on peut télécharger gratuitement sur leur site, où c'est vraiment des activités à faire parents-enfants. Sur l'image corporelle pour essayer de défaire tout ça. Et je dirais, en tant que parent, s'intéresser à ce que nos enfants regardent, écoutent et tout ça. Nos enfants sont imprégnés, quand ils sont adolescents, de Miley Cyrus et de plein de personnages comme ça qui sont pas nécessairement positifs, qui aident pas, en fait, à la construction de l'estime de soi positive au niveau de l'image corporelle. Alors, être intrigué un peu, s'asseoir avec eux, voir, puis essayer d'avoir des discussions, dire, écoute, elle est à moitié nue sur le stage en train de chanter, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Puis essayer d'ouvrir des discussions, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et puis on a plutôt tendance à vouloir éviter le sujet parce qu'on trouve ça difficile à gérer comme parent. Mais c'est de devenir plutôt allié avec notre ado dans ce à quoi il ou elle est exposé. Là.
Et bien sûr, d'être attentif aux signaux d'alarme. Si notre ado fait un régime à 12 ans, il y a peut-être une intervention à faire, là.
Définitivement. Je pense qu'aussitôt qu'on remarque des changements importants au niveau des comportements alimentaires, au niveau du régime d'exercice, au niveau de plein de choses, notre enfant qui se replie sur soi, qui s'autocritique ou qui se camoufle, là, qui veut mettre des grands vêtements pour se cacher, tout ça. Oui, il faut vraiment être à l'affût de tout ça parce que parfois, ce sont les premiers signes d'un problème plus grave. Puis plus on va attraper ce problème-là tôt, plus on a de chance d'y remédier, en fait.
Vous répondez quoi, Stéphanie, Léonard, aux gens qui disent « Ah, moi, je veux pas trop encourager la diversité corporelle parce que c'est comme encourager parfois des comportements qui seraient pas santé, des corps plus ronds, je veux pas faire la promotion de ça. Pour moi, c'est pas associé à un mode de vie sain. »
Oui, ça, je l'entends quand même relativement souvent. Moi, je dis toujours que c'est pas à propos de la silhouette et du corps, c'est à propos des comportements. Alors, moi, je pars avec l'idée que si une personne a un rapport sain avec son alimentation, donc est pas dans la restriction, mais n'est pas non plus dans la perte de contrôle alimentaire, c'est pas du tout ça qu'on veut. On veut pas faire la promotion de ça du tout, mais qui est dans un bel équilibre, qui a une relation de plaisir, mais qui sait aussi comment bien s'alimenter. Quelqu'un qui a un rapport positif avec le fait de bouger, axé sur le plaisir aussi. Avec ça, on va avoir le corps qu'on doit avoir. Et ce corps-là, peu importe s'il est rond ou s'il est mince, je pense que l'enjeu est plutôt au niveau des comportements, parce qu'on a tendance à se dire une personne mince, elle doit faire attention à ce qu'elle mange quand c'est pas du tout vrai. Oui. Une personne ronde, elle doit être ronde parce qu'elle s'empiffre, ce qui est faux aussi.
Oui.
Alors, j'essaie toujours de ramener ça au comportement, de dire à partir du moment où la personne a un rapport sain avec son alimentation, elle aura le corps qu'elle doit avoir. Alors, c'est pas d'encourager ni un extrême ni l'autre. Là, je pense que c'est sûr qu'on veut pas encourager les mauvaises habitudes alimentaires, pas du tout. Mais on essaie plutôt de trouver un équilibre. Puis je pense que c'est ça qu'on a de la misère à faire avec les différents messages qu'on entend. Là.
Mm-hmm.
On a des fois des grands extrêmes, c'est vrai.
Oui. Alors, et en ce sens, le dernier témoignage du bouquin avec Debbie Lynch-White est vraiment très parlant parce qu'elle a ce corps qui ne serait pas, qui serait pas régulier, qui correspond pas nécessairement aux normes de beauté, mais en même temps, Debbie, elle respire la santé et la forme physique.
Oui.
Donc, c'est très parlant comme exemple. En terminant, Stéphanie Léonard, on a parlé énormément d'équilibre et justement, l'organisme fait sa grande journée du 6 mai, journée internationale sans diète, non coupable de prendre plaisir à manger. Mm-hmm. Une journée avec laquelle, j'imagine, vous êtes assez à l'aise parce que les régimes, de toute façon, c'est assez voué à l'échec.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est une occasion d'avoir des discussions et de remettre en question cette obsession qu'on a avec les régimes amaigrissants. Donc, je trouve que c'est une super initiative. l'initiative. J'encourage tout le monde à aller voir sur le site d'Équilibre. C'est vraiment intéressant cette journée-là, je pense, évidemment, pour ouvrir notre débat là-dessus. Là.
Et pour en savoir davantage sur votre travail, vivreavecsoncorps.ca. Oui. Et également, le livre est édité aux éditions La Semaine Miroir, Miroir, Vivre avec son corps. Merci beaucoup, Dr. Stéphanie Léonard. Ça a été un plaisir.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Agathe Pula, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Vous êtes orthophoniste et là pour nous parler des troubles de la communication en ce mois de mai, mois de la parole et de l'audition. Je le disais en introduction, Agathe, avec le vieillissement de la population, est-ce que l'on pense que les besoins seront croissants, avoir des spécialistes, avoir des experts pour tenter de contrer les troubles de la communication?
Tout à fait. En fait, il y a deux grands besoins, je dirais, au niveau de la population qui font en sorte qu'on va être de plus en plus amené à consulter un orthophoniste. Il y a le vieillissement de la population d'une part, parce que, par exemple, quand on parle de démence ou de maladies dégénératives ou de presbyacousie, par exemple, donc de problèmes d'audition liés à l'âge, c'est sûr qu'on on pense qu'il y aura des troubles de la communication. Et puis également, le fait que les gens soient de plus en plus sensibilisés à l'importance d'intervenir tôt. Quand un enfant, par exemple, présente des difficultés de langage ou de communication. Donc, ces deux grands besoins-là font en sorte que les orthophonistes doivent prendre une grande place, une place importante.
Et c'est intéressant de le souligner parce qu'on associe souvent le travail de l'orthophoniste à l'enfant, tandis que là, ce que vous nous dites, c'est que ça peut aussi convenir à une personne plus âgée.
Tout à fait. Les troubles de la communication, ça peut vraiment toucher des gens de tous âges.
Oui. Maintenant, bon, je veux revenir aux jeunes et, bon, pour les parents qui nous écoutent, c'est quoi les signaux d'alarme lorsqu'on se dit, ben, peut-être que mon enfant vit un problème avec la communication, avec l'audition?
En fait, il existe différents repères développementaux. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que même en bas âge, donc même quand l'enfant a quelques mois, il y a des signes qui peuvent nous alerter. Par exemple, un enfant qui a peu de contact visuel ou qui réagit peu quand on lui donne ses soins à quelques mois, qui ne va pas produire certains sons, qui ne va pas babiller vers l'âge de 6 mois, qui va avoir un niveau de jeu limité. Par exemple, un enfant qui a intégré la garderie, qui a du mal à socialiser avec ses pairs, ça peut être un signal d'alarme. Donc, un enfant qui tarde à exprimer ses premiers mots. Normalement, on s'attend à voir les premiers mots apparaître vers l'âge d'un an. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour consulter un orthophoniste. Et même quand l'enfant ne parle pas encore, on peut déjà prendre rendez-vous avec l'orthophoniste.
Et jamais trop tôt pour stimuler le langage chez notre enfant.
Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les parents peuvent faire à la maison quand ils sont avec leur enfant pour stimuler le langage, pour vraiment faire en sorte que le vocabulaire se développe, pour stimuler la compréhension, pour stimuler la prononciation. Donc, des stratégies toutes simples qu'on peut appliquer dans le quotidien. Par exemple, le simple fait de se mettre face à face quand on parle à son enfant, de se mettre à sa hauteur, ça permet à l'enfant de bien voir comment on positionne notre bouche, de reprendre les modèles plus facilement. Ou encore, quand l'enfant fait des erreurs au niveau de la prononciation de certains mots, au niveau de la formulation des phrases, ben plutôt que de demander à l'enfant de répéter, on va plutôt, nous comme adultes, comme parents, donner le bon modèle à l'enfant en exagérant le son qui était difficile ou en exagérant les mots qui étaient absents dans la phrase.
J'imagine aussi que la lecture qui, bon, je parle de livres d'histoire ici, qui est effectuée auprès de l'enfant assez tôt, ça peut aider.
Tout à fait. Les livres, là, ça a été prouvé par différentes études. Je dirais même que c'est le meilleur jouet des tout-petits. C'est un outil incontournable pour développer le vocabulaire, pour bâtir la capacité d'écoute, pour stimuler l'imagination. Et quand les parents font la lecture à leurs enfants en bas âge, même quand l'enfant a seulement quelques mois, ça contribue beaucoup au développement de son langage. Et puis, les enfants à qui on a fait la lecture en bas âge de façon régulière vont commencer l'école vraiment bien outillée. Et c'est prouvé que le niveau de vocabulaire que l'enfant a à l'entrée à l'école, à l'entrée à la maternelle, c'est un bon prédicteur de son habileté à lire et à écrire plus tard.
Là, on a parlé de troubles de la communication chez les petits, chez les enfants. Ça peut arriver aussi plus tard dans le processus de vie.
Exactement. Ça peut atteindre les adultes aussi, les adolescents. Par exemple, après un accident vasculaire cérébral ou un AVC, certaines personnes vont perdre leur capacité à communiquer, à lire, à écrire, à comprendre, à s'exprimer. Ça peut aussi arriver suite à un traumatisme crânien, par exemple après un accident de la route. Ça peut être également en lien avec un cancer qui a touché la tête ou le cou, donc une tumeur cérébrale par exemple, ou une maladie dégénérative comme la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Parkinson, chez qui on va souvent voir des troubles de la voix. Donc ça peut vraiment arriver à tous les âges.
Oui. Maintenant, bon, si on consulte une orthophoniste, à quoi on peut s'attendre de ce processus-là?
Bien, d'abord, il va y avoir ce qu'on appelle l'évaluation. Donc, l'orthophoniste va, à travers différentes tâches, essayer de cerner quelles sont les difficultés de la personne et puis aussi comprendre quelles sont les difficultés ou les situations de handicap qui sont vécues par la personne dans la vie de tous les jours, au travail, dans son environnement. Et puis, une fois que cette évaluation-là va être complétée, donc ça peut prendre quelques séances, à ce moment-là, il va y avoir un plan de traitement qui va être établi, donc où on va vraiment déterminer des objectifs précis qui vont contribuer à améliorer les habiletés de communication de la personne. Et c'est certain que dans le plan de traitement et dans le plan d'intervention qu'on va faire, on va vraiment impliquer les proches, la famille. On va impliquer les différents intervenants, que ce soit l'enseignant à l'école ou l'éducatrice en garderie ou encore le conjoint, la conjointe, pour vraiment généraliser le plus possible les acquis qu'on va faire en clinique de façon à ce que ça se répercute dans les différents environnements de la personne.
Et on peut s'attendre à avoir besoin de combien de séances? J'imagine que c'est assez variable.
C'est assez variable. Il y a des personnes pour qui ça va prendre quelques semaines, d'autres plusieurs mois. Et il y a des suivis qui vont se faire sur plusieurs années quand on parle de problématiques qui sont sévères.
Oui. Je pense que c'est important d'en parler aussi, Agathe, parce que je le disais en introduction, parler, entendre, communiquer, on prend ça souvent pour acquis. Et lorsqu'il arrive un accident ou encore lorsqu'on découvre un problème chez notre enfant, on peut être assez inquiet. De savoir qu'on a des ressources, ça donne quand même, c'est rassurant, ça.
Tout à fait, exactement. Et puis, quand on s'inquiète, que ce soit pour nous-mêmes ou pour un proche, on peut se référer au site web de l'Ordre des orthophonistes audiologistes du Québec, qui est le www.oaq.qc.ca.
Et on le mettra sur notre site, Agathe Dupuy-là. On peut également aller faire un tour sur votre clinique. Vous êtes directrice générale de la clinique proaction.com. Toujours un plaisir de vous parler, Agathe Dupuy-là.
Merci, pareillement, Marianne.
Au revoir.
Un plaisir, au revoir.
Eh bien, c'était le grand retour de Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console. Merci. Merci Jean-Sébastien, c'est Marianne Paquette au micro. On se retrouve, nous, demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.